tous, ici Flavien de Guillaume pour la PNIX du Journal International. Vous l'entendez, bienvenue sur Game of PNIX. Cette semaine sur la PNIX, Hugo Joly, étudiant en droit et philosophie, Selim Ben Alima, étudiant en droit et sciences politiques, et Tanguy Rodari, membre de l'association Manque pas d'air et étudiant en art du spectacle, section images à Lyon 2. Salut tout le monde!
Salut Flavien.
Salut.
Game of Thrones, mis à part quelques dissidents, le monde entier suit l'épopée des Stark, Lannister ou autres Targaryens. Nous allons observer durant cette émission que Game of Thrones est un peu plus qu'une simple série télévisée. Ça peut être également un objet d'étude en relations internationales, en géopolitique, en théorie comme en pratique. Juste pour savoir, messieurs, puisqu'on est entouré que d'hommes aujourd'hui, c'est rare, mais on est entouré que d'hommes. Juste pour savoir, est-ce que vous faites partie de ces personnes qui ont un parti pris? Avons-nous ici des Starkistes ou des Lannisteriens?
Ah oui, complètement.
Oui, complètement.
Alors, bah, dites-nous, pour qui êtes-vous?
Moi, c'est les Martel.
Les Martel?
Oberyn Martel, c'est moi.
Ilona? Ilona?
Eh ben, du coup, non,
mais elle est pas morte.
I want her to know it was me. C'est Ilona, c'est Tyrell ou Martell?
Merde,
c'est
mais du coup ça fait que...
Ah, je sais plus. Olena.
Je crois que c'est Olena.
Olena Tyrell, ouais.
Ah oui, c'est ça. Ouais.
Et du coup, rien à voir avec...
Non.
Et du coup, Hugo, toi, t'es pour qui?
Alors moi, je suis un peu pour tout le monde. Hein. Pour Jon Snow, pour Daenerys, pour Arya, pour... Bon, Sansa, elle est un peu relou. Mais sinon, Olena, oui, c'était une championne.
Pour tous ceux qui sont beaux et jolis,
Ah non, pas du tout, non.
Pas du tout? Il y a des raisons. Tu vas nous en parler tout à l'heure, c'est ça?
Oui.
Et toi, Tanguy?
Alors moi, je suis beaucoup plus Lannister. Oui, alors voilà, je vais peut-être me faire assassiner. Mais...
Sans doute.
Mais oui, les Lannister, parce que c'est des personnages, je trouve, qu'on aime adorer. C'est vraiment, on aime
les détester,
insulter,
oui,
les détester,
oui.
C'est ça.
Tout à fait, et... j'adore les détester d'ailleurs.
Ils sont phénoménales.
Il ne faudrait pas que je confonde Tanguy et les Lannister. S'il vous plaît, Selim, Hugo, me rappelez-le-moi dans l'émission. Moi, je suis plutôt Stark et Jon Snow, du coup, j'ai glissé Targaryen en cette fin de saison. Et je sais pas si c'est bon, mais enfin bref. Justement, vous allez tous les trois nous en parler, puisqu'on va commencer par une chronique philosophique avec Hugo. Tu vas nous parler de l'idéal targaryen, Selim. Ensuite, tu vas analyser la politique conduite par Tyrion Lannister, c'est ça?
Tywin,
pardon. Excuse-moi.
Il y a une grande différence de taille déjà.
C'était facile.
Oui, on voit le niveau. Enfin, Tanguy, je t'ai appelé Tigo. Tanguy, tu nous parleras des parallèles entre Game of Thrones et notre société contemporaine. Est-ce que vous êtes prêts?
Oui.
Un petit peu d'entrain, s'il vous plaît.
Absolument, c'est parti.
Bon, allez, Hugo, c'est parti, on t'écoute.
Ah bah, quel honneur d'ouvrir le bal déjà, ça fait plaisir. Alors du coup, moi, je vais vous parler vraiment de l'idéal Targaryen. Donc déjà, un peu pour situer, on va faire déjà une approche un peu historique. Donc qui sont les Targaryens? Qui sont les Targaryens? Donc du coup, ce sont les seuls survivants de la grande nation valyrienne qui s'est faite écraser tel un moustique sur une vitre par un énorme fléau. Donc on a à peu près des volcans, des nuages de poussière. On a des nappes phréatiques empoisonnées par du gaz. Donc ils ont vraiment tout eu, genre le cataclysme. Mais grâce à une Targaryen dont en plus la plus paresseuse, ils ont pu être au courant du fléau et échapper à la grande catastrophe. Du coup, vu qu'ils avaient des dragons et qu'ils étaient quand même un peu badass, bah du coup, ils ont instauré la grande dynastie des Targaryens. Et du coup, je vais m'intéresser à Aegon le Conquérant, qui a entrepris avec ses deux sœurs et ses trois dragons la conquête d'Essos à l'est et de Westeros à l'ouest. Et pour fonder la ville de Port-Réal, donc King's Landing pour les bilingues. Grâce à leur conquête, ils ont forgé non seulement le prestigieux trône de fer qui a fait qui fonde la série, mais aussi le royaume des sept en l'honneur des sept dieux. Du coup, qu'est-ce qu'un idéal déjà? Donc, pour faire simple, l'idéal c'est un but. Donc, il possède plusieurs dimensions. Donc, d'une part, on a la source positive de l'idéal. Donc, c'est un espoir créateur qui permet de motiver pour nos actions. Donc, c'est-à-dire que on va se fixer un but. Et qu'avec ce but, ça va nous provoquer une sorte de motivation qui va nous permettre de faire plusieurs actions. Donc la finalité de chacune de ces actions ne va pas mener directement à l'idéal, mais la somme de toutes ces petites réalisations d'actions vont permettre d'arriver à l'idéal. Du coup, c'était vraiment le point positif. Et du coup, il y a aussi un point négatif à l'idéal, c'est que du coup, cet idéal est profondément en nous. Il fait partie de nous, donc du coup, plus on se rapproche, plus il s'éloigne de nous. Donc il y a vraiment ces deux dimensions très ambivalentes. Du coup, moi, je vais vous parler de Aegon, le Conquérant, selon le livre de George R. R. Martin. Donc, les origines de la saga.
C'est qui ?
Celui qui a créé Game of Thrones.
Ah bon ?
Et du coup, alors, pourquoi Aegon et pourquoi la famille Targaryen ? Parce qu'ils sont exceptionnels. Car la conquête des Sept était bien un désir résident de nombreuses personnes. Car l'idée de pouvoir gouverner les Sept Royaumes aurait fait bouiller n'importe quel roi, hein, comme Laurent Wauquiez a hâte de se faire réélire, forcément, ça attirait tout le monde. Et du coup, il n'y a que Aegon qui a réussi à faire ça et à fonder le Royaume des Sept.
Oui, mais Laurent Wauquiez n'a pas de dragon.
Non,
mais il a
c'est pour ça qu'il
ne
sera peut-être pas réélu.
Alors ça, qui sommes-nous ? Mais effectivement, nous verrons, l'histoire nous dira.
L'histoire nous dira, exact. Alors du coup, on va commencer, on va continuer avec Aegon, et du coup, dans le livre, on voit bien que du coup, Aegon avait vraiment sa propre conception du monde. C'est-à-dire que tel que le monde lui apparaissait, c'était vraiment juste un amas de terre, de mer et de chair, mais vraiment un territoire à conquérir. Quelque chose sur lequel dominer et gouverner. Et du coup, c'est ça qui était intéressant. Parce que non seulement il avait idéalisé le fait de pouvoir conquérir des royaumes conflictuels entre eux qui se détestaient et qui se massacraient, mais en plus, ce qui était intéressant, c'est qu'il avait l'idéal de pouvoir les gouverner, ce qui n'était jamais arrivé. Et du coup, c'est ça aussi qui fonde un idéal. C'est que l'idéal en soi est abstrait. Il n'est pas ancré dans la réalité du monde. Il est totalement personnel et n'a jamais été fait par notre expérience du monde. Du coup, c'est ça qui était intéressant. Et
on est en cours de philosophie là.
Oui, voilà, c'est un peu compliqué de tout réagir.
Je me revois sur les bancs de terminale. Je sais pas pour vous, c'est très angoissant.
Et du coup, on peut aussi faire un parallèle avec Daenerys, qui a repris malheureusement la dynastie.
Malheureusement.
Détruite à cause de tous ses prédécesseurs.
Pourquoi malheureusement, Hugo ?
Alors, pourquoi malheureusement ? Alors, écoutez, si par exemple tu prends un Aegon qui a conquis les terres de Westeros et d'Essos, qui a bataillé feu et sang pour les conquérir, et que du coup, cette dynastie ou tout ce gouvernement a été complètement détruit avec toute la dynastie, dont Aerys II, le roi fou, avec le feu grégeois. Du coup, voilà, Daenerys, c'est un peu comme si tu passais après Donald Trump, après son quinquennat aux États-Unis.
Donc,
ça va être extrêmement compliqué.
Non, valeur sur Daenerys, j'ai cru que tu t'attaquais à la meuf de mon préf. C'est pour j'étais là en mode qu'est-ce que je vais lui faire ?
Ah non, non, du coup, c'est vraiment pour montrer que du coup, il y a un parallèle avec Aegon et Daenerys, c'est que du coup, en soi, Aegon, il a eu cet idéal de vouloir conquérir le monde et il a réussi. Et Daenerys, ça va être complètement son but. Donc, c'est peut-être pas son but à la base, parce qu'elle commence vraiment de très très bas. Mais du coup, son destin va être d'arriver jusqu'à la conquête du trône de fer. Et du coup, c'est en soi qu'ils ont des idéaux. Mais cependant, du coup, pour Aegon et pour Daenerys, leur idéal, du coup, il y a forcément un côté négatif, hein. Du coup, vu qu'il est abstrait, il n'a pas de conséquences. Enfin, ils peuvent pas prévoir directement les conséquences de leurs actes. Donc, c'est pour ça que Aegon, dès qu'il a commencé à fonder sa cité, bah, il y a déjà eu des morcellements. Et du coup, ça a conduit avec la magnifique entreprise de ses successeurs de morceler complètement le territoire et que Aerys II se fasse tuer pour que du coup les Lannister reprennent le pouvoir. Bref, je vais pas vous expliquer Game of Thrones, hein, vous l'avez déjà vu. Et du coup, on a une dimension aussi négative pour Daenerys, qui même si du coup elle a fondé de nouvelles cités, donc à Meereen dans les cités esclavagistes, elle a pas prévu de pouvoir instaurer un gouvernement fort pour éviter la révolution des fils de la Harpie, qui ont tué beaucoup de ses immaculés. Donc c'est en ça que Daenerys et Aegon, pour moi, sont des idéalistes, et que du coup on pouvait comparer, on pouvait utiliser des membres de Game of Thrones pour illustrer l'idéalisme philosophique.
D'accord, très bien. Je suis désolé, j'ai utilisé un terme, la meuf de son préf, je ne sais pas quelle idée j'ai eu dans la tête pour utiliser ces termes. C'était la nouvelle, puisque Jon Snow est maintenant avec Daenerys. C'est pour ça que j'ai cru que tu t'en prenais à elle. Et je suis tatillon.
Je ne pouvais pas faire ça.
Non, non, enfin bref, je m'excuse de ces termes absolument, comment pourrait-on dire, scandaleux, c'est ça. Mais maintenant, on va passer à un autre point de vue, à une autre chronique. Enfin, c'est pas un point de vue, c'est une véritable argumentation. Selim, tu vas nous parler de la théorie politique et surtout de la politique de Tywin Lannister. On t'attend.
la théorie, peut-être pas pour pas. Ce sera pas aussi. C'est pas aussi construit que ça, mais en tout cas, oui, c'est tout à fait possible de faire des comparaisons entre Tywin Lannister et, par exemple, qu'on peut appeler le Machiavel de Westeros. Il faut noter que la doctrine de Machiavel, dans la tête de beaucoup de gens, exprime une forme de fascination. Donc, c'est pas ce côté-là qu'on va étudier aujourd'hui, et on va plutôt se concentrer aussi bien sur les avantages que sur les limites.
En effet, car Tywin finit lui-même par mourir, et pas de la cause la plus naturelle qu'il soit. La transition est très naturelle, je ne sais pas si vous vous rendez compte.
Tout à fait. Et ce n'est pas du tout préparé à l'avance en plus. Donc, il est mort en plus assassiné par son propre fils Tyrion. Donc il faut savoir que la politique diplomatique de Tywin, elle est très liée à sa personnalité. Sans rentrer dans les détails, il faut donc commencer par comprendre les piliers de sa pensée. Pendant toute la première saison, il nous donne déjà un indice quand il déclare à son petit-fils Joffrey d'une manière extrêmement brutale, qui était déjà roi à l'époque, « Tout homme qui a besoin d'affirmer qu'il est le roi n'en est pas un en réalité. » Il privilégie donc clairement les actes à la parole. Après tout, quand un lion rentre dans une pièce, il n'a pas besoin de s'annoncer pour que les autres sachent qu'ils doivent avoir peur de lui. C'est comme ça que fonctionne Tywin, c'est un fin tacticien, un excellent orateur, mais qui n'a pas non plus peur d'utiliser le silence comme autre arme.
Tu veux dire qu'en réalité, il s'est frappé là où ça fait mal?
Exactement. Concrètement, ça s'illustre par l'utilisation de la peur qu'il insuffle à ses adversaires au bon moment. Déjà, il sait s'imposer verbalement. On le voit souvent à l'écran interrompre un brouhaha par une explosion verbale qui impressionne en général tous les personnages présents dans la pièce. Une fois qu'il a l'attention voulue, il se calme et il donne ses directives. Il se tait ensuite à nouveau, ce qui est encore plus terrifiant, étant donné qu'on ne sait jamais à quel moment il risque de s'énerver ou de péter un câble contre quelqu'un.
Le pire, c'est que c'est diablement efficace, malgré l'utilisation systématique de cette technique.
Oui et non, parce que ce qui est plutôt systématique, c'est beaucoup plus raffiné que ça, c'est l'utilisation d'une véritable palette oratoire qui est très diversifiée. Par exemple, et à l'inverse, quand il ne parle pas, il n'éprouve aucune difficulté à utiliser le silence pour obtenir ce qu'il souhaite. On le voit clairement, par exemple, quand Joffrey ose le critiquer ouvertement durant l'une des réunions du conseil, donc qui était avec aussi Cersei et... le conseiller chauve dont j'ai oublié le nom.
Varys.
Plutôt que de lui répondre sur le fond, Tywin se tait, laissant son petit-fils s'embourber afin qu'il se ridiculise. Il utilise donc le silence comme arme pour humilier. Il sait qu'il ne faut pas flancher au moment où quelqu'un ose se confronter à lui pour lui rappeler qu'il a le contrôle sur la situation. Et là, tu es censé me demander, mais alors, quel est le rapport avec sa doctrine géopolitique?
Je me suis trompé de paragraphe.
C'est très simple, il n'en a tout simplement pas. Il n'a tout simplement pas de doctrine géopolitique. Il applique ce qu'on appelle la réelle politique, popularisée par l'ancien secrétaire d'État américain, Henry Kissinger. Plutôt que de vouloir appliquer une grille de lecture sur des faits, il commence d'abord par analyser la situation, puis en tire les conclusions qui lui semblent les plus avantageuses pour que sa famille reste au pouvoir. C'est ce qu'on appelle aussi du pragmatisme, il est extrêmement rigide, il aime l'ordre, ce qui le pousse davantage à privilégier les situations de statu quo. Son but, en gros, c'est d'empêcher qu'une famille concurrente n'arrive à le perturber au point de pouvoir prendre le pouvoir à sa place. Il est donc prêt à tout pour que la situation de stabilité dans laquelle se porte le royaume pendant toute la première saison perdure. C'est pour ça qu'il souhaite que sa fille Cersei se marie avec Loras Tyrell, par exemple, pour garder des liens forts avec la grande maison des Tyrell, qui est éminemment stratégique de par la base de Highgarden, par exemple. Et c'est cette même motivation qu'il pousse d'ailleurs à vouloir empêcher Joffrey de couper la tête de Ned Stark, qui était initialement très proche du défunt roi Robert. Prononcé comme ça, ça donne beaucoup moins envie. Et Tywin sait que la maison des Stark ne le pardonnerait jamais et que cela aboutirait forcément à un conflit qui rebattrait la carte des alliances.
Ce qui n'est pas étonnant quand on sait que l'univers de la série est calqué pour beaucoup sur l'univers médiéval britannique.
C'est tout à fait cela, c'est très bien analysé. Mais si on souhaite tirer une comparaison plus contemporaine, on peut aussi rappeler les similarités que peut avoir Tywin avec Otto von Bismarck, qui était donc le chancelier prussien, puis le chancelier allemand qui a permis l'unification de l'Allemagne en fait. Et c'était un très fin tacticien, c'était l'un même des acteurs majeurs du XXe siècle il a beaucoup de motivations parallèles à celle de Tywin. Certains disent qu'il a donné sa vie pour l'unité de l'Allemagne, d'autres pensent qu'il n'avait que la Prusse au cœur et qu'il voulait l'avoir dominé l'Europe. Pour ce cher Tywin, ça y ressemble beaucoup. Il ne souhaite que la défense des intérêts de sa famille. Il est prêt à tous les sacrifices et il n'a que faire des dommages collatéraux qu'il peut infliger à ses adversaires pour pouvoir arriver à ses fins. Donc toute sa stratégie, elle repose sur la peur qu'il inflige, la puissance qu'il souhaite démontrer pour faire comprendre à quiconque qui voudrait l'attaquer qu'il va le regretter, et on le voit dans beaucoup de saisons. C'est un système qui est extrêmement précaire finalement, qui ne se base que sur la violence et sur la domination. On est encore loin du multilatéralisme et des négociations diplomatiques pour une raison bien simple, c'est que les États ou le concept même d'État-nation n'existe pas encore, et on en est encore qu'au stade embryonnaire. Il y a beaucoup d'études qui pensent que, par exemple, l'univers de Game of Thrones se situe plutôt au 15e siècle, l'équivalent de notre 15e siècle historique, et ça prend ainsi tout son sens, étant donné que Machiavel a été rédigé en 1515. Donc, appliquer une grille de lecture contemporaine serait complètement hors de propos.
Mais ton Tywin, là, tu nous en parles, il a bien des défauts quand même.
Bah oui, parce que surtout comment on voit comment il termine, ce sera d'ailleurs son plus gros défaut qui coûtera sa perte, son orgueil ou plutôt sa fierté. C'est ce qui le conduira à détester aveuglément Tyrion, son propre fils. Les théories sont pléthores quant à la raison de cette détestation. Certains disent que sa taille et sa difformité le répugnent, d'autres avancent que Tywin n'est pas le père de Tyrion et que ce premier serait au courant. Il y a même une troisième théorie qui est factuelle, que la mère de Tyrion est morte durant l'accouchement, donc ça pourrait être une des motivations ou tout simplement une accumulation des trois. Dans tous les cas, cette haine l'a poussé à passer à côté du génie de son fils, clairement. Il a grandi dans le mépris, mais il s'est construit une capacité de réflexion et d'analyse bien plus poussée que son frère et sa sœur, qu'on trouve dans des situations peu amélioratives au début de la saison. Non seulement Tywin ne se rend pas compte du génie de son fils, ou en tout cas il feint de ne pas en voir l'utilité qu'il pourrait constituer dans la gouvernance de Westeros, mais en plus il le sous-estime au point de ne pas croire qu'il ne pourrait pas se retourner contre lui pour se venger, au point d'aller aux toilettes en pleine nuit sans être escorté.
Merci Selim, on en sait beaucoup plus maintenant sur ce Tywin Lannister qu'on voit dans les trois premières saisons, c'est ça?
Oui, à la louche, je ne sais plus.
4.
Ouais.
Eh bien, ce sera 4. Maintenant, on va parler de questions plus contemporaines, même si tu nous as parlé de questions contemporaines, Selim. Comparer, est-ce qu'il y a des événements qu'on pourrait comparer à notre environnement proche ou mondial? Oui. Tanguy, tu es là pour nous dire tout ça.
Alors oui, en effet, moi, je vais plus me pencher justement sur ces parallèles qu'il y a entre Game of Thrones et... notre société contemporaine. Donc, ces liens, justement, qui nous unissent à ce monde, cet univers qu'a réussi à forger George R.R. Martin. Peut-être aussi une raison pour l'attrait qu'on apporte à cette série. Elle passionne énormément, avec des millions de fans, tout ça. Et du coup, donc une des questions principales, c'est pourquoi, et beaucoup d'intellectuels du coup se sont penchés sur la question et ont pas mal fait de liens du coup entre ce qui nous rapproche du monde qui a été créé et du nôtre. Donc, en plus du coup d'avoir renouvelé un peu le genre fantastique qui s'essoufflait quelque peu, il arrive du coup à concevoir un monde totalement dingue. Il a réussi à créer des civilisations complètes avec toute une histoire qu'il y a derrière, et c'est pas un mince travail. On peut le saluer pour ça d'ailleurs.
Il y a passé ses dimanches, c'est ça ce que tu veux dire?
Voilà, il y a passé ses dimanches comme tu dis. Et du coup, il s'est certainement du coup inspiré donc de par notre histoire, mais également du coup de ce qui l'entourait. En effet, sur un plan historique, donc tout d'abord, il a déjà dit dans plusieurs interviews qu'il a assumé le fait comme quoi c'était un peu une revisite de la guerre des Deux Roses, donc qui avait déchiré l'Angleterre au Moyen-Âge par un conflit entre deux familles qui se partageaient le trône, donc qui s'appelait les York et les Lancaster, donc Stark, Lannister. Voilà, le rapprochement est assez vite fait.
Il n'y a qu'un pas.
Il n'y a qu'un pas, en effet. du coup, je pense que c'était une très bonne manière de faire la fiction, de rapprocher comme ça les spectateurs avec ces liens-là. parce que ça permet une illustration beaucoup plus accessible de leur quotidien et du coup permet un recul par rapport à ça. Donc beaucoup d'actualités ressortent malgré quand même le contexte médiéval de la série. On peut même retrouver un FMI clairement à travers la banque de fer par exemple. Et du coup, c'est vrai qu'il a pas mal réussi à faire ancrer l'instabilité du monde qu'on connaît un peu de nos jours et une géopolitique un peu incertaine à travers justement toutes ces familles qui se disputent et tous ces problèmes entre territoires.
Où est la Christine Lagarde? Telle est la question.
Du coup...
pas de réponse.
Pas de réponse pour ça, mais je peux te... Oui, je n'ai toujours pas de réponse d'ailleurs, c'est merveilleux.
On passe à la suite.
Je la coupe, désolé.
Bon. Donc du coup, donc beaucoup d'intellectuels sont posés la question. Je parlais de philosophie tout à l'heure. En effet, il y a Mathieu Pote Bonneville qui s'est exprimé justement sur cette série en utilisant ces termes comme quoi que c'était une leçon de politique critique et qui est à la fois du coup une critique du pouvoir et en même temps un manuel politique à employer. Donc, très cher politicien, si vous avez de quoi apprendre, peut-être plongez-vous dans cette série.
Ouais. Pour et mal finir.
Et du coup, ensuite, beaucoup de problèmes politiques du coup se posent dans la série. Donc, c'est le principal. C'est l'essence même de cette série, les alliances politiques entre familles rivales, tout ça. Et c'est vrai que dans ce monde moyenâgeux dans lequel on se transpose, il y a beaucoup de particuliers et de plaies qu'on retrouve, notamment à travers par exemple les trois dragons qui pourraient un peu être une représentation d'une bombe nucléaire, d'une bombe, d'une arme de destruction massive, oui, qui est un peu incontrôlable.
Notre invité a d'ailleurs une interprétation similaire. On verra ça tout à l'heure.
Bon, très bien. Et du coup, oui, il y a plusieurs un peu comme ça, les changements climatiques, par exemple, avec le fameux Winter is Coming, le légendaire, avec les marcheurs blancs comme ça qui avancent pas à pas, un peu comme vers une destruction du monde et de l'humanité.
Comme l'eau qui monte. Non, je ne sais pas.
Ce sera coupé au montage.
Beaucoup aussi également de problèmes actuels comme le fanatisme religieux dans lequel un peu on est plongé, surtout en ce moment.
En ce moment.
Même depuis déjà oui. Plusieurs.
C'est pas neuf, hein.
Oui. On s'en rend peut-être plus qu'on compte maintenant parce que ça nous touche peut-être plus directement. C'est pour ça, je pense.
Oui. Ouais, vaste. Bref, on s'éloigne.
Oui, on s'éloigne un peu vraiment du sujet.
On s'éloigne.
Donc c'est vrai, ouais, à travers la foi militante, donc du coup ce mouvement religieux dirigé par le grand moineau. Du coup, qui n'est pas très éloigné de notre obscurantisme actuel.
Obscurantisme partout à travers le monde qui touche oui. Bien sûr toutes les religions.
De pour tous les obscurantismes, on est bien d'accord.
Sans viser personne, bien sûr. Et du coup, donc, c'est vrai que cette série du coup, est assez intéressante donc, sur ce point de vue-là, étant donné que la fiction, même si c'est un statut de fiction, elle peut apporter beaucoup de choses et beaucoup d'impact dans une société. On mesure souvent aussi du coup, cet impact de la société, sur la société. Ça mesure l'étendue de cette fiction et les capacités par rapport à celle-là. Et du coup, c'est vrai que cette série peut rapporter beaucoup de réflexions au niveau de justement du coup notre situation actuelle.
On va passer à notre deuxième partie, la partie débat, la partie invité. Cette semaine, nous avons eu Amélie Ferré qui a répondu à nos questions. Elle a fait un doctorat en sciences politiques et est spécialisée sur la question des assassinats ciblés. Elle est passée par Sciences Po Paris, l'université Paris-Assas. Jean Moulin, elle répond à nos questions sur ce sujet bien plus large qu'est Game of Thrones, on peut le dire. Elle avait signé en août dernier sur le journal The Conversation un article titré Game of Thrones, un prisme de la théorie politique. Et donc, je lui ai posé quelques questions. Elle ne peut, hélas, pour une question d'emploi du temps, se tenir avec nous, mais elle a tenu à répondre à nos questions. Donc, je lui ai dit, par exemple, dans son article, vous aurez en lien dans la description. Posté dans The Conversation, elle parle de l'établissement d'un pouvoir central assez fort pour tenir les ambitions de chacune des maisons. Alors moi, je me suis demandé quel est ce respect des ambitions de ces maisons. Est-ce qu'elle considère que les Lannister avaient cette place? Est-ce qu'on parle peut-être d'un État fédéral? Elle nous répond.
Moi, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que Game of Thrones mettait en lumière ou donnait un récit dystopique de la féodalité. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas de pouvoir central, c'est-à-dire quand vous n'avez pas de Léviathan, quand vous n'avez pas d'État, vous êtes dans une situation de guerre civile et de guerre de tous contre tous. Donc là, l'État qui caractériserait les relations des Lannister avec les autres maisons, ce serait cet État-là, c'est-à-dire la loi du plus fort, le règne de tous contre tous. Par contre, si vous avez un pouvoir qui est tellement plus fort qu'il arriverait à tenir à distance justement les ambitions de toutes les maisons qui se soumettraient face à l'asymétrie de pouvoir, là vous auriez une possibilité de paix. Et donc moi ce que je pense, c'est que la seule personne qui est capable de faire ça, c'est Daenerys Targaryen. Pourquoi ? Parce que le dragon symbolise justement cette asymétrie de pouvoir qui est telle qu'elle est capable donc d'imposer la force et la paix par, par la peur, alors que les Lannister ne le peuvent pas. Et je pense que justement Game of Thrones n'est pas du tout dans une constitution d'un état fédéral, et que c'est pas l'objectif, parce que ce que ça montre, c'est que quand vous avez des forces à peu près égales ou un système d'alliance qui peut se créer, et ben vous dérivez forcément vers un état de violence. Alors que si vous avez un pouvoir qui écrase tout le monde, vous pouvez avoir la paix.
Est-ce que vous pensez, vous aussi, les chroniqueurs, que les Lannister n'arrivent pas à imposer le pouvoir parce qu'ils n'ont pas ce pouvoir asymétrique que sont les dragons, que les Targaryens auraient ?
Déjà, j'aimerais juste revenir sur ce qu'elle avait dit par rapport aux Targaryen. Effectivement, je pense que c'est eux, parmi toutes les familles, qui ont le pouvoir le plus puissant avec les dragons. Sauf que du coup, on a clairement vu avec le roi Aerys II, le roi fou, que du coup, il avait beau avoir le pouvoir le plus puissant, avec le feu grégeois, bon, il n'avait pas de dragon, mais il avait le feu grégeois, il a quand même fini par éclater. Et c'est Lannister, Tywin Lannister, qui était sa main, qui a fini par reprendre le pouvoir. Et donc pour moi, je pense que du coup les Targaryen, et même avec Daenerys, on voit très bien que du coup elle a beau avoir libéré avec ses dragons énormément de cités, au final elle sait absolument pas les gouverner. Donc vraiment, je pense que du coup la force, c'est les Targaryen, le pragmatisme et la gestion, les Lannister, parce qu'il y a, pour moi, il y a vraiment pas meilleur qu'eux. Et après, tout ce qui concerne
pour l'instant, parce que on aurait pu dire que Elena Tyrell, si elle aurait... Vous tâtez mon accent anglais, là, un petit peu. C'est quelque chose. Hein.
ça a été beau, ça, l'entraînement.
elle avait ce pragmatisme aussi. Et Ned Stark l'avait également. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, mais complètement. Enfin, même si on pense par rapport... Je pense au Martell aussi, à Dorne, ils avaient un pragmatisme et une gestion de leur état qui était extrêmement fort. Parce que du coup... par rapport au récit d'Aegon, Dorne a été la seule région qu'il a jamais réussi à contrôler. Donc ça prouve bien que du coup, ils ont très très bien suggéré leur région sans que ça se disloque. Et oui, complètement. Enfin, après, ce qui était compliqué avec les Starks, c'est que du coup, il y a eu énormément de rivalités.
Juste pour répondre, et loin de moi l'idée de contredire l'opinion de quelqu'un qui est beaucoup plus diplômé que moi, mais je pense que l'argument sur lequel repose son idée est un peu prématuré, en fait, parce qu'elle parle d'une puissance qui permettrait d'imposer un contrôle du territoire total et qui permettrait d'imposer une autorité sur toutes les autres maisons, mais c'est un peu comparable à l'arme nucléaire quand
c'est
on la
ça,
détient.
Je crois, oui.
Donc je pense plutôt que si on veut étudier la question d'une fédération ou de la constitution d'un état unique, il faut justement remonter à la comparaison avec le 10e, 11e siècle en Angleterre, pas au Royaume-Uni, du coup en Angleterre, qui est très comparable à Westeros, même géographiquement c'est pareil, même au niveau des histoires c'est extrêmement similaire, et là c'est plutôt le temps qui va permettre la constitution d'un état et l'accumulation d'un territoire de plus en plus grand, comparable aussi comme à la France ou avec Louis XI qui avait fini par réunir tous les territoires, c'est juste ça.
Tu penses pas que cette surpuissance, cette superpuissance, cet élément qui fait que les rapports sont asymétriques, que seraient les dragons? Et tu parlais d'ailleurs, Hugo, du feu d'Aerys II. Lui, il n'avait que le feu grégeois. Un dragon, c'est bien plus puissant. C'est
le dragon, c'est mobile, mais en soi, le feu grégeois est extrêmement puissant. Quand tu vois comment est-ce qu'ils ont fait exploser toute la foi militante, leur puissance de feu et de frappe, elle est extrêmement puissante. Enfin, le roi avait un pouvoir de pression sur ses habitants,
oui,
qui était extrêmement fort.
Le souci, c'est que ce feu grégeois, il fallait une main d'œuvre, il fallait qu'il ait un commandement sur ses hommes pour qu'il l'utilise. Alors que le dragon, il n'y a que lui qui peut le commander, et surtout personne d'autre peut l'en empêcher d'utiliser ce dragon. Tu vois ce que je veux dire?
Ça ressemble plus à une dictature avec quelqu'un qui détient le pouvoir et qui serait une menace pour tout le monde, et plutôt qu'à un véritable état.
Alors là, du coup, je te rejoins. Est-ce que tu dis qu'il faut du temps pour que cet état unitaire se construise? Et moi, je suis d'accord. Mais est-ce que tu penses que ce processus, hein, parce que c'est un processus, une construction politique, est-ce qu'il serait pas enclenché grâce du coup à l'instauration d'un pouvoir stable, que serait du coup la venue de cette Daenerys ou de ce Jon, on verra dans la future saison, au pouvoir grâce à cette force qui calme un peu les ambitions de tous les protagonistes.
Non, pas du tout. Un État ne se construit en général jamais sur une personnalité, mais sur des liens sociaux, sur des constructions de pouvoir, des constructions territoriales. Et c'est un ciment qui prend beaucoup de temps. Ça n'a aucun rapport avec une personne émergente.
Ce sont deux visions, tout à fait. On va passer à la deuxième question. Je lui ai demandé, vous connaissez tous Jon Snow, j'espère. Madame Ferré parle de sa ligne de conduite éthique et déontologique qu'il poursuit au long de la série. Et moi, ce que j'ai voulu savoir, c'était quelle était cette ligne, de quelle éthique parle-t-on ?
Alors, justement, Jon Snow, pour moi, il représente la pureté morale et la tragédie de la pureté morale. C'est-à-dire que Jon Snow, c'est quelqu'un qui représente une ligne de conduite qui n'est pas de ce monde, qui n'est pas humaine, qui n'est pas faite pour nous. Et c'est pour ça que d'ailleurs, à mon avis, il a eu des petits problèmes et qu'il est donc très différent de ses autres camarades. Et qu'est-ce que c'est sa ligne de conduite ? C'est que lui, il fait jamais de compromis. Il a des valeurs morales dans lesquelles avec lesquelles il refuse de faire des compromis. Donc l'honneur, notamment, est quelque chose pour lui qui structure sa vie. Donc même quand il a des responsabilités politiques et qu'il doit faire passer son honneur au second plan pour faire avancer ses propres opinions politiques, eh bien il est incapable de le faire, ce qui le mène systématiquement à sa perte. Et l'épisode de la bataille des bâtards où il doit affronter quand il doit affronter Ramsay Bolton, ça c'est vraiment le symbole du fait que ce que nous dit Game of Thrones, c'est qu'on ne peut pas être pur moralement, on ne peut pas être dans l'absolu et garder toujours son honneur. Pourquoi ? Puisque lui, il va choisir d'aller sauver son frère alors qu'il sait que ça va amener toute son armée à sa perte. Et cette scène où il y a un encerclement de son armée, ça montre bien le fait que la pureté morale et l'absolutisme conduit à un encerclement, c'est-à-dire qu'on ne peut plus agir. Et c'est sa sœur qui va pouvoir le sortir de là, parce qu'elle, elle est dans le pragmatisme et que ce qui lui importe, c'est les conséquences, même si son honneur doit en souffrir.
On parlera de sa sœur plus tard, mais du coup j'ai une autre question. Vous parliez qu'il ne bougeait pas de toutes ses positions. Pourtant, dans la dernière saison, il a finalement, et contre toute attente, et contre la volonté de son peuple, enfin, on ne sait pas, puisqu'il ne leur a pas demandé encore, mais selon sa propre opinion, il a choisi de bend the knee, de ployer le genou face à Daenerys Targaryen. Est-ce que c'est un revirement pour vous ?
Oui, je pense que c'est un revirement, et ça c'était extrêmement extrêmement intéressant, et on espère que du coup justement il a appris de ses erreurs. Mais vous savez qu'il y a tout un tas de théories sur la relation entre Daenerys Targaryen et Jon Snow, donc en fait il ménage quand même, c'est-à-dire que c'est un revirement, mais qui ne dans la série, qui n'est pas expliqué par un calcul politique conséquentialiste. Il ne le fait pas parce qu'il se dit « c'est la meilleure solution pour moi pour faire avancer mes propres intérêts ». Il le fait parce qu'il a été convaincu de la qualité intrinsèque de Daenerys Targaryen. Et donc il le fait par un élan du cœur, parce qu'il reconnaît la supériorité morale de Daenerys. Donc je ne dirais pas que c'est un revirement, je dirais que c'est une inflexion.
Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que pour Jon Snow, Daenerys a une supériorité morale? Est-ce que Daenerys a une supériorité morale sur tous les personnages de Game of Thrones? Allez-y, débattez, est chaud.
Moi, je trouve que déjà, ce qui est intéressant avec Daenerys par rapport à sa morale, c'est que du coup, elle a commencé tellement bas, elle en a pris tellement plein la tête, que du coup, maintenant, elle a vraiment une valeur humaniste qui est énorme. Enfin, elle est vraiment extraordinaire, et du coup c'est ça qui l'écarte un petit peu même de tous ses prédécesseurs. Quand on voit, bon, j'en prends souvent le roi fou, mais moi parce que c'était aussi par rapport à l'inceste, mais quand on prend par rapport au fait que quand on a le pouvoir, et bien, du coup on a la folie des grandeurs, et du coup on perd un peu cette qualité morale, et du coup elle l'a retrouvée parce qu'elle a commencé de vraiment très très bas et qu'elle a dû tout remonter. Et du coup ce qui était intéressant avec Jon Snow,
et quand elle décide de brûler un père et son fils pour donner l'exemple,
elle avait déjà le pouvoir. Elle était à la tête de Meereen, et du coup, quand tu as le pouvoir, et ben du coup, sa qualité morale, forcément, elle vacille. Et c'est l'intervention de Jon Snow qui va, pour moi, peut-être pouvoir l'aider. Parce que du coup, elle est plus toute seule pour gérer la cité.
Oui, mais la question c'est est-ce
non, moi je parlais sur le champ de bataille. Sur le champ de bataille, oui, quand elle capture tous les prisonniers.
Et quand elle brûle les deux.
Oui, pas, ah, oui, parce qu'Amerine elle avait tué, brûlé quelqu'un d'autre aussi. Bon, elle a plutôt l'habitude. Donc,
c'est un combat politique en fait. Quand elle brûle, du coup. La famille,
c'est Tarly.
Quand elle roule les Tarly.
Ah, là, j'ai oublié le nom.
C'est politique, c'est une opposition. Et on voit que là, c'est elle qui a le pouvoir, c'est les dragons. Vous ne voulez pas. Tant pis. Tu vois ce que je veux dire ? Et moi, c'était la question, c'est. Du coup, tu en parlais. Du coup, c'est pour ça que Jon Snow aurait Ben the Knee. Vous remarquez comme j'adore cette expression. C'est parce qu'il reconnaissait cette supériorité morale. Réflexion.
Je sais pas. Enfin, je sais que du coup, moi, je vais énormément me référer comme d'habitude à ce magnifique ouvrage.
Oui.
Mais du coup, les Stark ont déjà Ben the Knee face aux Targaryens. Donc.
Oui, mais ils se sont rebellés. C'était d'ailleurs.
Les Stark.
Oui.
Après, mais par rapport à Aegon le Conquérant, enfin, ils avaient Ben the Knee.
Oui, mais c'était pas une question de morale à l'époque. C'était une question de puissance, comme
tu
dis.
Oui, c'était une question de puissance.
Mais là, c'est juste pour prendre le mot puissance, c'est pour citer. Le duc de Boulogne, Booba, qui te dit que la puissance ne respecte que la puissance, c'est exactement ce qui est arrivé à Jon Snow. C'est-à-dire qu'il a trouvé quelqu'un qui était un concentré d'humanisme, d'élégance, de finesse, de raffinement et d'intelligence tactique et stratégique. Et donc il a été prêt à passer outre ses calculs pour accepter de ployer le genou et la rejoindre dans son aventure. Moi je pense que ça n'a aucun rapport avec la tactique pour le coup et qu'il s'est juste laissé guider par ses sentiments.
Donc, et même elle aussi, hein, quand elle est arrivée avec son dragon par-delà le mur.
Donc vous rejoindriez finalement Amélie Ferré en disant qu'il y a une espèce de supériorité morale dans lequel Jon Snow s'est reconnu et c'est pour ça qu'il se joint littéralement à elle. Le mot qui vous vient, j'ai l'impression que c'est supériorité.
Ouais, c'est supériorité.
Une similarité, vous préféreriez ?
Bah, disons que je sais pas. J'arrive pas à. J'ai du mal avec le mot supériorité parce que pour moi, vraiment, ce qui fait son pouvoir, c'est du coup son alliance avec d'autres personnes. C'est ce qui la fonde. Enfin, elle est devenue puissante quand elle a commencé à prendre du pouvoir avec Khal Drogo, quand elle a commencé à être un peu plus pragmatique grâce à Tyrion, bref. Et du coup, c'est ça qui est intéressant. Donc, on peut pas parler vraiment de. Enfin, la supériorité, c'est pas elle qui l'a eue.
Mais ça n'a rien à voir avec la supériorité.
On parle de morale. Je vous parle de supériorité morale, pas de supériorité de puissance.
Oui, mais pour moi, en gros, Khaleesi, elle n'a pas de supériorité morale à la base.
Pour Jon Snow, il ne s'est pas trouvé devant cette femme qui, elle est ce que je voudrais être.
Pas dans le sens, je voudrais être une femme,
Daenerys.
On n'est pas dans la nature, c'est pas deux singes ou deux, je sais pas comment ça s'appelle, deux grizzlies qui sont en train de voir les supériorités physiques de l'autre ou intellectuelles.
Tu essaies
d'expliquer rationnellement une chose qui l'est profondément pas. C'est-à-dire quand tu es attiré par quelqu'un, c'est le moment émotion. Enfin, tu vas pas réfléchir en te disant c'est la supériorité morale qui m'attire ou alors j'ai pas compris la question. Enfin, c'est logique.
Non, je parlais pas d'attirance physique, sexuelle. Je parlais de Jon Snow qui accepte de rallier le Nord à la cause Targaryen.
Mais ça, je pense aussi que c'est justement lié à sa relation avec Daenerys. Il lui fait confiance, mais c'est pas forcément par rapport à une quelconque supériorité morale. Je pense qu'il arrête de calculer,
moi,
justement.
Je pencherais plus pour la solution d'Amélie Ferré. Parce qu'effectivement, elle a ce point. Enfin, c'est mon avis. Je veux dire, chacun peut avoir le sien.
Oui, exprime-toi.
Elle a cette éthique que Jon Snow a. Et je pense qu'il se retrouve dans cette volonté d'agir. Voilà. Bon. Non.
Non, mais oui, chacun exprime.
Bon, une troisième question. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Il y a un rapport homme-femme dans Game of Thrones. Est-ce que c'est une opposition réaliste et d'allié ? Je lui ai demandé. Je voulais savoir quelle était la place pour George R.R. Martin, quelle place il donnait à la femme, est-ce qu'il y avait un message politique, pourquoi pas. On va voir sa réponse.
Alors justement, je pense que dans Game of Thrones, la femme est le dépassement de l'opposition entre moralité pure et conséquentialisme pur. Parce que vous avez d'un côté des gens qui sont complètement idéalistes, comme vous dites justement, des hommes très idéalistes comme Jon Snow, qui sont pas du tout dans le compromis, mais qui du coup politiquement sont complètement désastreux. Mais vous avez aussi des hommes qui sont complètement mus seulement par leur intérêt, seulement par leur volonté de pouvoir et par une intelligence qui est très très puissante, mais qui est très terrible et très très inquiétante, notamment Ramsay Bolton. Et pour moi, les figures féminines dans Game of Thrones représentent une troisième voie et une combinaison entre ces deux manières de penser. Puisque, et d'ailleurs, je dirais que Daenerys Targaryen, elle est complètement le symbole du réalisme libéral en relations internationales. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la volonté de rendre le monde meilleur, et d'ailleurs elle le dit, qu'elle veut rendre le monde meilleur, mais rendre le monde meilleur tout en étant conscient de ce qu'il est. Donc le rendre un tout petit peu meilleur, pas le changer totalement comme ce que veut faire Jon Snow. Alors là, on a, et Sansa est complètement dans ça, c'est-à-dire qu'elle a aussi des valeurs morales qui, elles, sont plutôt des valeurs claniques, hein, c'est la défense du clan, mais une capacité d'en jouer et d'être pragmatique quand il le faut, et ça, on le voit beaucoup avec Lord Baelish, hein, où elle joue bien son jeu, et on a une incertitude sur est-ce qu'elle va faire passer justement sa perception du clan, de l'honneur ou son calcul politique, et le dénouement est intéressant. Mais la figure qui rentre pas trop dans ça, c'est justement Cersei, parce que Cersei, elle est pas du tout dans cet idéalisme, et on a une ambiguïté, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si elle est plutôt dans la catégorie Ramsay Bolton ou elle est plutôt dans la catégorie féminine qui est décrite par Game of Thrones. Mais je dirais qu'elle est justement, elle est vraiment dans ce qu'est la raison d'État, c'est-à-dire garder le pouvoir, maintenir le pouvoir, mais pas le pouvoir seulement pour elle-même, mais le pouvoir pour sa famille.
Et je lui ai posé une autre question, une dernière question. Tanguy t'en parlait tout à l'heure. Le Seigneur des Anneaux de Tolkien a un message politique, enfin philosophique et politique parfois. Game of Thrones également. Moi, je me demandais, et elle en parle un petit peu dans son article, est-ce que le genre fantastique, est-ce que la fiction devient de plus en plus un moyen d'éducation, de réflexion politique pour les citoyens ?
Et encore une fois, c'est une excellente question. Je pense que le genre fantastique a toujours été un moyen de dire quelque chose de la politique. C'est-à-dire qu'en créant des utopies ou en créant des dystopies, vous montrez des alternatives, vous poussez à bout, vous caricaturez certains traits de la société, et vous, du coup, vous donnez un message politique en montrant ce que le monde pourrait être. Et donc, je pense que ce qui permet, contrairement à la science, d'utiliser l'imagination et de faire appel aux sentiments, ce qui est très convaincant politiquement. Mais cela dit, ce qui est bien avec Game of Thrones, c'est que ça permet de créer une discussion aussi mondiale, en dehors des pays, sur cette série. Donc je pense que c'est un double effet politique. C'est qu'à la fois, c'est une critique très forte de la chute de l'État, ou du fait que l'État est moins important. Et en même temps, c'est aussi le début un renforcement d'un espace de délibération démocratique transnationale sur ce type de questions. Et je pense qu'il y a une autre série qui est très bien sur cette question et qui est très politique sur la question justement de la dystopie et comment on peut utiliser des dystopies pour montrer ou pour dénoncer certains traits de nos sociétés. C'est The Handmaid's Tale de Margaret Atwood, enfin qui est basé sur un livre de Margaret Atwood. En français, c'est La Servante Écarlate. Donc c'est absolument génial. C'est l'histoire, donc c'est une dystopie aux États-Unis où toutes les femmes deviennent, les femmes et les hommes deviennent stériles à cause de l'utilisation de produits chimiques et des dégâts faits à l'environnement. Et donc vous avez un coup d'État protestant qui instaure une théocratie dans laquelle les femmes rentrent au foyer. Donc dans un contexte où on a élu Donald Trump et de retour de religieux, je trouve que c'est une série qui est extrêmement intéressante et qui doit être analysée politiquement.
Moi, je voulais vous poser une question, excusez-moi, j'ai fourché. Est-ce que vous, avec vos amis, il vous est arrivé de parler politique grâce à Game of Thrones ?
Évidemment.
évidemment.
Ouais, oui, complètement. Ouais.
Donc,
c'est... Ah, moi, non.
Non.
Non, pas sur
philosophie,
les
philosophie peut-être, comme tu es en philo.
Non, même pas. C'était juste dans la profondeur des personnages qui était extrêmement intéressante et de l'avenir des White Walkers. Mais sinon.
Mais quelque part, est-ce que quand on parle, même quand on parle que des personnages, c'est ce que dit Amélie Ferré, est-ce que quelque part, indirectement, on ne parle pas politique?
Tu vois ce que clairement, oui, c'est différentes formes de politique qui sont appliquées dans chaque région. Donc, c'est pour ça qu'on peut se fighter. Il y a ceux qui sont les défenseurs de l'ordre établi, comme les Lannister, et qui sont dans une forme de dictature classique comme on peut la retrouver aujourd'hui, et d'autres formes plus originales, comme les Stark, qui se basent davantage sur leurs liens avec leur structure sociale avec les paysans et tous ceux qui sont présents en territoire et qui ont aussi leur mot à dire, quoi.
Est-ce qu'on peut s'engueuler avec Game of Thrones?
Oui.
Oui.
Autrement que le spoiler, hein.
Ah, c'est déjà un élément.
C'est le pire ennemi de la série, le spoiler.
Oui.
Non, mais par exemple, est-ce que vous êtes déjà pas engueulé, mais disons que est-ce qu'il y a eu des discussions houleuses avec un ami qui, alors que vous supportiez telle maison, s'est dit mais tu te fourres les doigts dans l'œil. Regarde, ils sont bien meilleurs, ils vont gagner.
Bon, moi, là où je me suis beaucoup embrouillé avec des personnes, c'est surtout sur Daenerys, qui du coup est extrêmement présente en tant que nouvelle libératrice du monde esclavagiste. Et du coup, je sais que leur réponse c'était surtout oui, non, mais c'est bon, la meuf classique avec ses dragons qui va tout conquérir. Alors que non, ce qui est intéressant avec Daenerys, c'est que du coup, elle arrivera jamais à tout conquérir. Et ce qui est inédit, comparé à l'histoire, c'est que du coup, elle sera pas toute seule, que malgré. À son destin, et bien du coup elle va être reliée à énormément de familles, et c'est ça qui était super intéressant, c'est de voir que en utilisant un monde complètement inventé, ils arrivent à montrer que la politique elle ne peut pas se faire tout seul par rapport à une seule personne, par rapport à une famille, un pouvoir, et du coup on a forcément besoin de faire des alliances ou des autres.
Moi je suis d'accord. Ouais, moi je m'engueule souvent parce que je défends que les Fernets vont gagner.
Ah, c'est possible, hein. Oui. Rien n'est joué avec des épisodes d'une heure, voire d'une heure et demie. Je n'ai pas.
3h30 pour le dernier en plus.
3h30 par épisode.
3h30.
C'était super de parler Game of Thrones. Pour nous, retrouvez-nous en janvier. On fait une petite pause pour nos partiels. Si vous voulez tout savoir, on va passer nos examens. On se retrouve la semaine du 15 janvier. On vous souhaite tous de bonnes fêtes. Et merci beaucoup. Au revoir.
Ich bin ein Berliner.
Entre ici, Jean Moulin.
Yes, we can.
Je vous ai compris.
C'est un vieux pays.
Vive le Québec libre.
I have a dream.